RCF. Le 18-19, l'invité.
Les Bleus affrontent le Maroc ce soir à 20h en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar. Un homme en forme dans cette équipe depuis le début de cette Coupe du Monde, le Grenoblois Olivier Giroud, 4 buts, 3e meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Devenu aussi meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France devant Thierry Henry, Antoine Griezmann et Michel Platini avec 53 buts. Pourtant âgé de 36 ans, il est presque encore au sommet de sa carrière. Alors comment expliquer sa performance? Peut-être sous l'angle spirituel, on va le voir ce soir avec Joël Thibault, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous en visio aujourd'hui. Vous êtes aumônier du sport, pasteur évangélique et donc accompagnateur spirituel d'Olivier Giroud. C'est bien ça?
Exactement, oui. J'accompagne Olivier dans son parcours de foi et d'études de la Bible.
Et donc, c'est paradoxal peut-être, mais vous allez nous le dire, mais vous boycottez la Coupe du Monde, c'est ce que vous m'avez confié là juste avant l'interview. Donc vous ne regardez pas les matchs de cette Coupe du Monde qui a lieu au Qatar, vous ne regardez pas Olivier Giroud pour l'instant.
Pour l'instant, et j'espère tenir jusqu'au bout, effectivement, j'ai pris la décision de boycotter cette Coupe du Monde il y a quelques mois, dans une réflexion autour notamment de la condition des travailleurs et sur le fait qu'il y a au minimum 6500 ouvriers qui sont morts sur les chantiers. Les chiffres pourraient aller, selon certains médias anglais, jusqu'à 15 000 personnes. Donc pour moi, et en honneur de leur mémoire, et pour que les choses changent, je préfère ne pas regarder pour ne pas contribuer au financement de cette Coupe du Monde et de ce que la FIFA ferme les yeux. Heureusement, entre guillemets, un des responsables du Qatar a reconnu qu'il y avait eu 500 morts sur les chantiers. C'est une avancée, mais les conditions des travailleurs pour finalement notre propre plaisir me mettre en retrait et prier pendant les matchs. Et puis l'autre raison, c'est que finalement, on est dans un pays qui ne permet pas tellement la liberté d'expression et liberté religieuse notamment, où il n'est pas possible pour des Qataris de devenir chrétiens et où il est très compliqué pour des chrétiens de vivre leur foi et d'aller dans des lieux de culte et des églises, et notamment depuis la crise du Covid où les choses ont été amplifiées. Donc pour moi, c'est pas ce à quoi devrait ressembler un pays qui accueille le plus beau sport du monde, le football.
Oui, parce que vous êtes même ancien un petit peu footballeur, vous êtes passionné de football, mais vous êtes du coup avec Olivier Giroud, avec lui tout de même, mais un peu différemment.
Voilà, je suis avec lui un peu différemment parce que finalement, mon rôle d'accompagnateur spirituel ne se concentre pas sur la performance du sportif, mais sur l'homme dans sa globalité. Et donc, il n'est pas un chrétien que quand il est sur le terrain. Il l'est aussi quand il est un époux, un père de famille, un citoyen. Et la foi chrétienne ne concerne pas, quelque part, que la performance. Elle ne doit pas l'exclure, mais le message façon de l'évangile, c'est un message de grâce et qui est à l'opposé de toute performance. Donc, il y a un message qui est libérateur aussi qui peut être apporté. Mais je ne suis pas un préparateur mental et on aura certainement l'occasion de creuser cette question.
Et donc Olivier Giroud est grenoblois, né à Chambéry, formé au Froges OCF. Il commence sa carrière ensuite en pro en 2005 au GF 38, à Grenoble Foot 38. Vous étiez à Lyon pendant une période aussi entre 2006 et 2011, mais la rencontre s'est faite un peu plus tard finalement.
Oui, la connexion... Alors, j'avais eu des échos déjà quand j'étais à Lyon qu'il y avait un jeune chrétien ou de famille chrétienne qui du monde évangélique qui commençait à percer dans le football. Il se trouve que quelques années après, je connais des jeunes qui ont réussi dans le monde du football professionnel au GF 38 et qui avaient côtoyé Olivier sur les bancs de l'église. Et donc, et son ancien... responsable de groupes de jeunes, comme c'est organisé dans les églises évangéliques, m'avait mis en relation avec lui à l'époque où il était à Arsenal, au tout début où il venait de signer. Et puis, à l'époque même où il était encore à Montpellier, on devait se rencontrer. Et puis finalement, il n'y avait pas eu de suite. C'était pas le moment. C'était pas le bon timing à ce moment-là. Quand j'étais à Lyon, je côtoyais davantage des joueurs de l'Olympique Lyonnais comme Claudio Cassapa, l'ancien capitaine, qui était très engagé dans sa foi. Il y avait plusieurs joueurs à l'époque, comme Edmilson aussi, qui venaient rendre des témoignages. Il était venu d'ailleurs du côté de Grenoble et de Valence, si mes souvenirs sont bons. Et il venait, voilà, ça a été un peu des pionniers, c'était un peu des ovnis dans le monde du football, ces Brésiliens qui ouvertement n'avaient pas peur de parler de Jésus, de l'amour de Dieu. Et puis bah, c'est un peu ça qui a eu de l'influence aussi sur des gens comme Olivier et d'autres, parce que des joueurs comme Kaka qui témoignaient, qui partageaient leur témoignage, bah, ça a eu un écho, une résonance dans la vie de ces sportives quelques années
Oui,
plus tard, quoi.
vous parlez des Brésiliens justement, c'est vrai qu'on a un rapport peut-être un peu différent, notamment dans le sport avec le fait d'assumer sa foi chrétienne plus spécifiquement, puisque c'est vrai que la foi est chez certains joueurs et chez même beaucoup de joueurs, mais peut-être plus assumée quand ça concerne l'islam, moins quand ça concerne des chrétiens.
Alors, effectivement, dans nos sociétés occidentales, c'est plus compliqué. On a un rapport aux choses beaucoup plus rationnel. On a une percée de l'athéisme. On est en train de revenir là-dessus. On est plus sur des personnes qui se disent agnostiques, en Europe. Au Brésil, il faut savoir qu'il y a une percée de l'évangélisme, aussi. Et donc, ça rejoint les gens dans leur difficultés, dans leurs problématiques. Plus grande aisance entre guillemets, malheureusement, c'est quand on est souvent dans la difficulté, le dos au mur, qu'on va peut-être se tourner vers Dieu. Et donc ils ont un rapport différent des choses. Et puis comme le sport et le foot là-bas et la religion numéro un aussi, tout ça se mélange. Alors là où il faudrait faire attention, c'est que maintenant ça arrive dans le football, on parle plus de notre foi, mais il faudrait encore connaître l'objet de cette foi, à quoi elle sert, est-ce qu'elle est là pour se rassurer, est-ce qu'elle est une foi superstitieuse ou elle est une foi qui finalement change le quotidien, quelles que soient les performances bonnes ou mauvaises, et qui a un message plus important et plus large que notre vie terrestre, en fait. En tout cas, c'est ce que l'Évangile apporte en parlant des questions qui vont jusque dans l'éternité. À quoi servirait-il à un homme de gagner tous les trophées du monde s'il perdait son âme? Donc là, Jésus est en train de nous parler du sens de l'éternité et du sens de nos priorités sur Terre. Et donc, le sportif, comme il sait à un moment qu'il est limité et vulnérable, il a besoin d'un supplément d'âme, il a besoin de quelque chose qui le transcende, mais il peut chercher Dieu comme une patte de lapin, comme quelque chose qui va seulement l'aider à avoir du succès dans sa carrière. Alors que nous, notre travail, c'est d'être vigilant à ça et d'accompagner la personne sur la réalité de ce que dit la Bible et ce qui est plus loin que ça. Mais de l'autre côté, pendant longtemps, l'Église, avec un grand E, qu'elle soit catholique ou protestante, a eu une forme de rejet. Du corps et du sport, et le sport c'était pas bien de le pratiquer parce que ça éloignait de l'Église et que même le sport pouvait être vu comme le plus grand des péchés. Donc ça permet de rééquilibrer les choses, mais j'ai peur qu'on balance, c'est toujours le problème de l'équilibre, on peut déséquilibrer et faire l'effet balancier inverse, et que maintenant tout le monde va vouloir prier Jésus parce qu'on va finir meilleur buteur de l'équipe de France, alors que la réalité risque d'en décevoir
Malheureusement, oui.
de nombreux jeunes.
En tout cas, on va parler de ce lien que vous entretenez donc avec notamment des sportifs et notamment avec Olivier Giroud, l'attaquant de l'équipe de France de football. Vous restez avec nous, Joël Thibault. Je rappelle, vous êtes donc aumônier du sport, pasteur évangélique et donc accompagnateur spirituel. On se retrouve juste après le journal.
Le 18-19. L'invité.
Et l'invité ce soir, c'est Joël Thibault, aumônier du sport, pasteur évangélique et donc accompagnateur spirituel, notamment d'Olivier Giroud, l'attaquant français grenoblois, plus précisément né à Chambéry, 36 ans, et qui est devenu donc le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France de football. Il n'était plus d'ailleurs sélectionné en équipe de France avant la Coupe du Monde. On ne savait pas s'il allait être sélectionné par le sélectionneur Didier Deschamps. Et donc, finalement, il est appelé, il a déjà marqué 4 buts dans cette Coupe du Monde, devenu donc meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Comment expliquer cette force, sa résilience, Joël Thibault, vous qui l'accompagnez autour de sa foi, autour de son caractère aussi, puisque j'imagine que ça forge aussi un caractère, la foi.
Ça forge un caractère, ça communique aussi des valeurs, et il y a le fruit de l'esprit dont il est question, comme la patience, la maîtrise de soi. On apprend aussi la persévérance. Donc je pense qu'il en faut beaucoup dans ces moments-là. Beaucoup de joueurs auraient, comme on dit, pété un câble ou lâché. Et peut-être aurait arrêté leur carrière avant.
Oui,
Donc là,
parce
il y
qu'on
a
le
quelque chose
précise, il a
qui est
36
assez
ans et
fort.
c'est quand même assez âgé pour une carrière de footballeur. Il est encore dans un grand club européen au Milan AC, il participe à la Coupe du Monde. C'est quand même une grande force à 36 ans de pouvoir faire tout ça.
Oui, alors on a tendance, ça c'est le problème, peut-être un problème. Ouais, européen aussi, mais 36 ans, ça reste jeune. Quand on a une bonne hygiène de vie, quand on regarde Zlatan, Victorino Hilton, qui ont joué jusqu'à plus de 40 ans, c'est possible. Mais je pense que c'est comme on est dans une course toujours plus à la performance, et qu'il y a des générations qui arrivent et qui poussent, on a tendance à mettre de côté ceux qui dépassent la trentaine, alors que en fait, ils ont la possibilité, s'ils travaillent bien, s'ils s'entretiennent bien, d'être encore performants. Mais ce qu'il aurait pu faire, c'est que Olivier aurait pu lâcher, peut-être, je ne dis pas qu'il l'a fait, mais Blaise Matuidi a fait d'autres choix. Blaise Matuidi aurait pu être dans ce groupe. Il a
Un autre
choisi
joueur de l'équipe de France,
de
milieu de terrain.
partir aux États-Unis, pour mener une vie plus paisible avec sa famille, changer de cadre, parce que c'est des exigences, le très haut niveau. Donc là, oui, il y a une force mentale, mais il aurait pu décider de se la couler douce tout en continuant à jouer dans des pays plus exotiques, on va dire, de seconde zone au niveau ouais, du niveau footballistique. Mais il a persévéré. Mais je crois aussi que ce qui est important, sans non plus tout spiritualiser, c'est qu'il bénéficie aussi du parcours de son frère, Romain, qui devait signer à l'AJ Auxerre, qui a eu un parcours où il a connu Thierry Henry, et il a échoué face à certaines exigences, et tout ça a préparé Olivier à la suite. Et en fait, on ne se construit jamais seul quand on se construit une carrière. Malheureusement, l'échec des uns peut aider à la réussite des autres. Et Olivier ne dissocie pas sa réussite de celle de son frère. Alors, bien évidemment, dans la foi, on peut puiser des choses, mais une nouvelle fois, j'ai envie de dire, c'est plus large que ça. Mais ce qui fait la différence pour Olivier, je pense, c'est ce qui doit faire la différence dans tout le monde, que ce soit chez le boulanger, chez l'étudiant qui nous écoute ce soir, celui qui est en troisième et qui n'a pas envie de continuer ses études, c'est peut-être de savoir que si vous vous savez aimé par Dieu, eh ben, c'est une grande source de motivation et de réconfort pour aller de l'avant. Et c'est surtout ça qui a fait une différence, c'est la foi évangélique que sa maman lui a communiquée, à savoir l'amour de Dieu, eh ben, progressivement a eu un impact, et le touche et l'impact, en fait. Et cet amour poursuivra, continuera, que Olivier arrête sa carrière de footballeur, continue comme entraîneur ou pas, et je crois qu'il n'a pas envie d'être entraîneur, qu'il fasse vendeur de chaussures ou boulanger, peut-être qu'il a eu, ou comédien, ou voilà, il y aura ce fil conducteur dans sa vie, de se savoir aimer de Dieu.
À quel moment peut-être la foi l'a le plus porté, l'a le plus aidé ces dernières années dans le sport? À quel moment peut-être vous, depuis que vous l'accompagnez depuis 2016, hein, il me semble, depuis 6 ans, voilà, quel est le moment où ça l'a plus aidé?
Moi, je vois pas de moment, et pour moi, c'est une croissance, c'est quelque chose qui est progressif. C'est quelqu'un qui a appris à lire la Bible beaucoup plus qu'il le faisait, à grandir en tant qu'homme. Mais une fois de plus, il n'est pas un être parfait qu'il faut idéaliser. Il est quelqu'un qui est en chemin, comme tout le monde. Là, on a la lumière parce qu'il marque des buts, mais c'est pas parce que il marque des buts qu'il est davantage béni par Dieu que s'il en marquait pas. Et ça peut être un piège dans lequel on peut tomber. On a plus de chances de marquer des buts, effectivement, quand on est bien dans sa tête. Mais si on faisait des statistiques sur le nombre de joueurs qui pourraient être dans un état dépressif et qui arrivent quand même à marquer parce que le talent est là, on trouverait des choses. Donc, je ne veux pas qu'on accole trop de choses à ça. Je pense que c'est vraiment garder un bon équilibre sur le fait qu'à un moment donné, le football ne répond pas à toutes les questions existentielles. On peut gagner beaucoup d'argent, on peut gagner des trophées et au final se sentir vide. Et un grand champion comme Aurélien Colin qui a gagné le championnat des États-Unis, alors ça reste la MLS, mais dans lequel il y a des grands joueurs qui ont joué comme Zlatan, comme Thierry Henry ou encore d'autres grands champions du monde, il lui-même a découvert que arrivé au sommet de son art, il se sentait vide et qu'il lui manquait quelque chose. Et ce témoignage a beaucoup touché Olivier avant l'Euro 2016. Et là où j'ai vu chez Olivier quelque chose de fort, c'est finalement, il n'a pas sombré après la défaite en finale de l'Euro, mais il a fait confiance à Dieu. C'est ses mots. J'ai fait confiance à Dieu dans ces moments difficiles. Il s'est accroché. Il n'est pas devenu avec une rancœur. Il s'est pas éloigné de Dieu, mais il a continué à persévérer même dans les moments difficiles. Et moi, c'est ce que je lui souhaite tout au long de sa vie. C'est de s'accrocher aux paroles du Christ.
C'est vrai qu'il est toujours en chemin, même aujourd'hui, durant la Coupe du Monde, dans certains témoignages, dans certaines interviews qui peuvent être faites avec des joueurs de l'équipe de France. Certains disent que ils comblent leur temps au Qatar avec en jouant à des jeux vidéo, toutes sortes d'activités. Et Olivier Giroud partage toujours cette recherche spirituelle. Il a toujours un livre avec lui. Il a toujours la Bible pour s'inspirer. C'est toujours ce chemin qu'il continue de mener encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il l'inspire? Quels sont les passages peut-être aussi qui peuvent l'aider sur des compétitions comme celle-là, dans des moments aussi comme celui-là?
Dans des moments comme celui-là, alors lui, il a un des versets qu'il aime le plus, c'est le psaume, enfin c'est l'ensemble du psaume 23 qu'il apprend à l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Qu'il a
Lorsque
tatoué
je
sur son bras.
traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Alors ça va beaucoup plus loin que d'être dans un moment de détresse dans le foot, mais il y a la notion de la table de l'adversaire, tu dresses devant moi une table. Il y a toute cette notion-là qui est importante par rapport à tout ce qu'il a vécu. On a voulu l'opposer à un autre attaquant. On a voulu le mettre de côté avec un attaquant, mais lui, il a jamais cherché quelque part à nuire à quelqu'un. Il a juste cherché à bien faire son travail. Et quand on fait bien son travail, eh ben, à un moment donné, on est récompensé. Et donc, méditer autour de ce psaume, il est important, mais l'épître aux Romains, chapitre 12, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Chapitre 1, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, ça sera un culte agréable à Dieu. En fait, le corps, la manière d'utiliser son corps, ce qu'il va faire avec son corps, est un moyen d'honorer Dieu. Donc c'est à lui d'être vigilant, de travailler là-dessus, son corps sur le terrain, en dehors du terrain, comment il l'utilise, à quoi il sert et comment il peut être un vecteur de la gloire de Dieu. Et tous les messages aussi sur le fait de c'est Dieu qui nous donne les dons et les talents. Et donc quand on réussit, j'ai lu dernièrement, là, il y a eu un article qui a été fait dans Le Point où j'avais été interviewé et le journaliste a titré le coach de Dieu. Le coach d'Olivier, pardon, voyez, lapsus révélateur. Le coach d'Olivier Giroud, c'est Dieu. Ben, j'aimerais qu'on parle davantage de Dieu et moins d'Olivier Giroud et de s'intéresser davantage à quelle est cette foi en fait et finalement qu'est-ce qu'elle apporte. Et j'aimerais juste finir là-dessus sur que Pierre, qui était un homme impulsif, qui avait des capacités, il disait, mais vers qui d'autre irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Et je pense que tout homme a besoin de découvrir qui se cache derrière les paroles de la vie éternelle, parce que ça nous apporte un réconfort, ça nous apporte une espérance que le football ne pourra pas vous apporter et qu'aucun homme sur terre ne pourra vous apporter. Et donc, c'est ça qui vient combler un homme comme Olivier Giroud.
Merci beaucoup, Joël Thibault. Je ne vais pas vous demander du coup le pronostic pour ce soir parce que vous nous aviez partagé que vous ne regardez pas
Ça sera un combat
la Coupe du
spirituel dans
Monde.
la prière.
Voilà.
Ça risque d'être âpre et il nous faut prier pour aussi que ça se passe bien en dehors du terrain, qu'il y ait une paix.
aussi.
Pour les Vigiroux, d'ailleurs, c'est aussi compliqué de participer à cette Coupe du Monde, justement, quand vous rappeliez le contexte dans la construction des stades aussi, avec ces morts qu'il y a eu au Qatar dans la construction des stades, ça peut aussi permettre de se rapprocher de Dieu.
Il n'est pas insensible à la cause des chrétiens persécutés. Il s'est plusieurs fois engagé. Il prie pour les chrétiens au Qatar. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et je prie qu'il ait l'opportunité de Dieu voulant de s'exprimer davantage et de d'être en tout cas de d'ouvrir d'être conscient de ce qui se passe
Oui.
là-bas. C'est à lui, ça n'engage
Bien sûr.
que lui et son positionnement. Mais nous, on est là pour soutenir les sportifs. Les sportifs sont pris dans l'étau autour de cet enjeu. On prie pour eux, mais on espère qu'il y ait des avancées aussi dans l'avenir pour moi, des Coupes du Monde comme ça ne se reproduisent plus.
Merci beaucoup, Joël Thibault, d'avoir été avec nous, aumônier du sport, pasteur évangélique et donc accompagnateur spirituel d'Olivier Giroud. Merci beaucoup.